Amen. Gloire au Seigneur. Alors que je réfléchissais, que j'essayais de savoir quelle était la pensée de Dieu pour ce soir, j'étais en prière et une phrase est venue à mon esprit. On va pas le lire de suite, mais c'est le titre que j'ai donné à ce message. Remets ton épée au fourreau. Remets ton épée au fourreau. Derrière cette phrase énigmatique, pas si énigmatique que ça d'ailleurs, hein. Ceux qui ont lu la parole et les évangiles savent le contexte de cette parole, j'aimerais lire en préambule, on va lire cette parole, on va la lire de suite, je pensais la lire en deuxième, on va la lire de suite, c'est dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 18 et au verset 11. On peut lire à partir du verset 10. Simon Pierre, qui avait une épée, l'attira, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui trancha l'oreille droite. Pierre n'était pas un guerrier, il visait pas l'oreille, hein, vous comprenez bien. Le nom du serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre, « Remets ton épée au fourreau. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée ?» Aussi, Jésus dit à Pierre, à mot couvert, que l'épée qu'il a dégainée était inutile. Elle servait à rien. Pourtant, quand on regarde ce qu'il y a dans l'évangile de Luc, on pourrait être tenté de croire qu'il fallait qu'ils amènent des épées. Mais en fait, ils en ont pris parce qu'ils ont mal interprété certaines paroles de Jésus. Et je vous encourage aussi à faire attention à la manière avec laquelle on lit les Écritures. Parce que souvent, il y a des paroles qui sont données, qui sont à double sens. Et ici, Jésus dit, c'est au chapitre 22 de Luc. Au chapitre 22, on voit une parole que Jésus donne et il compare le moment qui arrive avec un autre moment où les disciples avaient été envoyés et il fallait qu'ils ne fassent pas attention à ce qu'ils emmènent, enfin il fallait qu'ils comptent sur les autres. Et ici, il leur dit, maintenant ça change, va falloir vous preniez tout ce que je vous avais dit l'autre fois, ce coup-ci, vous faites l'inverse. C'est-à-dire que si vous avez une bourse, vous la prenez. Si vous avez des chaussures, vous les prenez. Vous prenez des armes aussi parce qu'il faudra vous défendre. Et ici, à ce moment-là, les disciples comprennent mal ces paroles, quelque part. Enfin, ils comprennent mal. Dieu savait qu'il y aurait une épée qui traînerait et qui serait là parce qu'il fallait aussi que s'accomplisse cette parole, comme quoi il a été mis au nombre des brigands. Mais ici, quand les disciples leur demandent, est-ce qu'on doit en prendre une autre? Regardez le verset 36. Maintenant, au contraire, que celui qui a une bourse la prenne, de même celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée vende son vêtement et en achète une. Car je vous le dis, ce qui est écrit doit s'accomplir en moi, il a été compté parmi les malfaiteurs, et ce qui me concerne touche à sa fin. Ils dirent, Seigneur, voici deux épées. Et il leur dit, c'est assez. Est-ce que Jésus avait dit qu'ils en avaient pris trois, est-ce qu'il y en aurait eu trop? S'il n'avait pris qu'une, est-ce qu'il y en aurait une? Non. Souvent, c'est une parole qui est très mal comprise quand il dit c'est assez. On peut croire qu'il parle du nombre des épées. Mais on peut croire aussi que ça servait à rien qu'ils en emmènent. Dans le sens où Jésus, ce qu'il veut, dans un premier temps, c'est qu'on puisse vraiment avoir cette épée du discernement surtout. Et que dans des circonstances telles qu'étaient les leurs, ils n'avaient pas besoin de se défendre à leur manière. Et qu'il fallait qu'ils s'abandonnent complètement à ce que Jésus avait prévu. C'est assez. C'est un peu une parole peut-être aussi qui autorise Balaam à partir quand même. t'en as pas besoin, mais allez, prends-la. C'est ça, moi, c'est comme ça que je comprends. Vous en aurez pas besoin, mais prenez-les quand même. Et on voit que Pierre, il a une épée dans les mains, et son épée va s'exprimer. C'est celle de Pierre qui s'exprime. Et ici, eh bien, elle va mal s'exprimer. Il aura son épée sur lui, et elle ne servira qu'à lui faire faire quelque chose qui, grâce à Dieu, sera réparé par le Seigneur lui-même. L'apôtre Pierre, avec son épée, est l'image du chrétien qui ne sait pas se tenir, qui ne sait pas quand il faut parler, quand il faut pas parler. J'aimerais qu'on lise un proverbe. Vous allez voir pourquoi j'ai pris cette image de l'épée, parce que elle est biblique. Proverbe, chapitre 12, verset 17. Alors que les disciples étaient censés faire confiance à ceux qui étaient autour d'eux dans leur première mission, dans la deuxième, ils rentraient dans une autre phase, celle du jeûne. Quand alors on critiquait les disciples avec Jésus parce qu'ils mangeaient et buvaient, les disciples de Jean-Baptiste notamment disaient « Mais eux, ils mangent, ils boivent, et nous, on jeûne. » Et Jésus leur dit « Mais pour l'instant, l'époux est avec eux, alors ils mangent, ils boivent. Mais après, l'époux leur sera enlevé, alors ils jeûneront. » Et c'est exactement ce moment qui arrive. C'est ce moment où Jésus attend des disciples ce jeûne, quelque part, qui, quelque part, est une consécration pour le besoin de ceux et celles qui sont autour d'eux. Cette mission qui commence pour les disciples, que d'annoncer la bonne nouvelle, et ça va passer par un temps difficile pour eux, parce qu'ils vont vivre la mort de Jésus, les souffrances, etc. Et ici, les épées symbolisent finalement, quelque part, la parole qu'ils doivent donner avec discernement. Et Pierre est à un stade où il n'avait pas encore ce discernement. Dans Proverbe, chapitre 12, verset 17, je suis pas à la bonne page, le proverbe est très parlant parce qu'il dit ceci, verset 18. Tel qui bavarde à la légère blesse comme une épée, mais la langue des sages apporte la guérison. Les épées que les disciples avaient besoin, c'était des épées qui, comme à l'image de Salomon, quand il va devoir juger entre deux femmes qui se disputent un enfant, il fait apporter une épée aussi. Et une épée qui ne servira pas à frapper qui que ce soit, d'ailleurs. Une épée qui va permettre à la vie d'être conservée. Une épée qui va permettre de bien discerner la chose, d'avoir l'esprit bien ouvert sur ce qui se passe. Et les disciples avaient besoin de ces épées-là, de ces épées qui leur permettraient d'avoir le bon discernement sur l'emploi même de leur langue, de leur bouche, qui est aussi une épée. J'aimerais qu'on lise dans le livre de l'Ecclésiaste ses conseils. Et c'est le cœur de ma prédication. Cette prédication a pour vocation de nous encourager à la prudence dans ce qu'on peut dire. On verra deux exemples. Bien sûr, c'est pas exhaustif, il y en aurait d'autres à donner. Mais il nous est important, quand on suit le Seigneur, de veiller à nos paroles. Alors, il y a un premier écueil qui est que nos paroles, en général, sont la prolongation de ce qu'il y a à l'intérieur de notre cœur. Un texte de la parole dit « c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». Donc, ce dont mon cœur est plein, eh bien, les paroles qui vont en sortir vont correspondre. Donc, je le dis en passant, mais ce qu'on dit révèle qui nous sommes. Ça, c'est clair. Et on s'en rend pas compte à quel point c'est vrai. Une personne qui est tout le temps en train de râler, eh bien, c'est une personne qui, à l'intérieur, ne va pas bien du tout. Et elle ne se rend pas compte, mais quand elle râle, elle révèle vraiment qui elle est à l'intérieur. Elle révèle qu'elle est une personne qui ne fait confiance en rien. Elle révèle qu'elle est une personne impatiente, qui ne se satisfait de rien. Et finalement, elle passe son temps à se plaindre. Et finalement, son cœur en est tellement plein que ça déborde et ça sort par la bouche. Dans l'Ecclésiaste, au chapitre 4, verset 17... Prends garde à ton pied quand tu vas à la maison de Dieu et approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne reconnaissent pas qu'ils font le mal. Je m'arrête rapidement sur ce verset, on va continuer, hein. Mais ce verset nous avertit quand même à ce qui c'est marqué « Prends garde à ton pied », mais derrière le sacrifice des insensés que nous pourrions apporter ici, c'est ce qui sort de nos lèvres, ce que nous pouvons dire quand nous prions, quand nous partageons même avec des frères, des sœurs. Comment est-ce que je m'approche de Dieu ? Nous sommes dans la maison de Dieu. Et ici, nous sommes encouragés à écouter tout ce que Dieu pourrait nous dire. Des choses peut-être qui vont nous encourager, mais peut-être aussi des choses qui vont nous reprendre. Le Seigneur attend de nous que nous puissions écouter. Un insensé, c'est quelqu'un qui n'a plus la sagesse, qui n'a plus le discernement. Ce que je suis en train plus ou moins d'expliquer déjà avec la symbolique de l'épée, ce qui m'amène à pouvoir faire la différence entre ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Si je n'ai pas de sens, je ne sais plus quand il faut tirer et quand il ne faut pas tirer. Je ne sais plus quand il faut parler et quand il ne faut pas parler. Et si je suis insensé, non seulement je ne sais plus quand parler et quand ne pas parler, mais en plus je n'écoute pas. Et comme je n'écoute pas, je ne vais pas pouvoir m'en sortir, parce que je vais continuer dans mon brouillard, et je ne vais pas pouvoir apprendre, je ne vais pas pouvoir grandir, parce que je n'écoute pas. Je n'écoute pas ce qui m'est dit. Comment est-ce que je considère la parole de Dieu ? Est-ce que quand je viens dans sa maison, je viens conscient que, à travers une prédication comme celle-ci, eh bien, Dieu peut parler à mon cœur ? Dieu peut vraiment s'adresser à moi, à travers la pensée qui est partagée, à travers des textes bibliques, à travers les conseils même qui sont donnés. Dieu peut parler. Est-ce que je viens pour écouter ce que Dieu pourrait avoir à me dire ? Ou est-ce que je viens avec mes idées bien en tête et ne voulant pas recevoir ce que Dieu voudrait me dire ? Les paroles même qui ne me sont pas agréables sont à prendre en compte quand Dieu me parle. Au chapitre 5, on a quelques conseils. Ne te presse pas d'ouvrir la bouche, et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu. Car Dieu est au ciel, et toi sur la terre. Que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Mieux vaut pour toi ne pas faire de vœu que d'en faire un sans l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher tout ton corps et ne dis pas en présence de l'envoyé, celui qui représente Dieu. C'est ça que ça veut dire, parce qu'on est dans le contexte d'être dans la maison de Dieu. Que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu devrait-il s'irriter de tes paroles et ruiner l'œuvre de tes mains ? Car dans la foule des rêves, il y a des vanités. De même, quand il y a beaucoup de paroles, c'est pourquoi crains Dieu. Que tes paroles soient peu nombreuses. J'aime à dire que on apprend à en parler en quelques mois. Et il nous faut toute une vie pour nous apprendre à nous taire. Que tes paroles soient peu nombreuses. Quelqu'un qui aime le Seigneur, il doit avoir à cœur que ce qui sort de sa bouche soit utile, soit édifiant. Un chrétien, on a le droit de plaisanter, bien sûr. Je ne dis pas qu'il faut être des tristes chrétiens. Je dis pas qu'on n'a pas le droit de parler de choses et d'autres. Mais quand même, dans ce que je dis, est-ce que oui ou non, ça va être utile ? Des fois, on va vouloir discuter d'une situation. Et on s'aperçoit qu'on commence à dire des détails sur des situations, des fois tristes ou joyeuses d'ailleurs. Mais on peut se rendre compte que derrière, la finalité n'est que d'en parler, en fait. Ça ne sert à rien. Et dans ces situations-là, en tant que chrétien, ça peut ne pas être agréable à Dieu d'évoquer des situations juste pour le plaisir de l'évoquer. Est-ce que c'est utile ou pas d'en parler? Parce que si je commence à évoquer, par exemple, des situations, mais que ça ne serve à rien, je ne suis pas loin de la médisance. Même si c'est vrai. La médisance, c'est sur quelque chose de vrai. Mais quand ce n'est pas utile d'évoquer certaines choses, est-ce que ce n'est pas plus prudent de ne pas en parler? De la même manière, il y a aussi des personnes, parce qu'il est un peu question de rêve dans ce passage, je vais en parler légèrement, où des personnes facilement disent des expressions du type « Dieu m'a parlé », « Dieu m'a montré que », « J'ai fait un rêve ». Et attention à ce qu'on dit, « Dieu m'a parlé ». Est-ce que Dieu, oui ou non, vous a parlé, ou est-ce que c'est ce que vous, vous pensez qu'il vous a dit? C'est pas forcément pareil, hein. Le Dieu m'a parlé, c'est quelque chose de très très dangereux. Parce que on se met dans une situation de messager quelque part, où on retransmet à quelqu'un ce que Dieu nous a dit. Et si Dieu ne l'a pas dit, c'est grave. Il faut réaliser ce qu'on dit. Nos paroles, elles ont de la portée. Quand on commence à dire « Dieu m'a parlé », attention, parce qu'on prend Dieu à témoin. Et si Dieu n'a pas parlé, c'est grave, parce qu'on fait mentir Dieu. Attention. Et à l'image de Pierre, puisqu'on a lu un passage sur Pierre, on peut être en défaut dans nos paroles par des engagements, parce que les vœux dont il est question dans ce passage, ce sont des engagements solennels. Et je me demande si parfois on n'aurait pas tendance à s'engager à tort et à travers. Et on se retrouve lié par nos paroles. Nos paroles, je ne sais pas si on les réalise, nos paroles nous lient. Quelle que soit la circonstance d'ailleurs dans ce que je viens de dire, nos paroles nous lient. Ce sont des liens vraiment. Et il nous faut faire attention. Moins je parle, moins je suis lié par mes paroles. Plus je parle, plus je suis lié par mes paroles. Attention. Le premier point, pour lequel il me faut être prudent, c'est par rapport au message que je pense recevoir de Dieu. Et un exemple qui est tout trouvé, c'est celui de Joseph. On connaît tous l'histoire de Joseph, on ne va pas la lire. Joseph est quelqu'un qui a un cœur pour le Seigneur, dès sa jeunesse. Et à un moment donné, Dieu va lui parler par des rêves. Et Joseph, dans son élan, dans son jeune âge, dans sa naïveté aussi, je pense que c'est ça dont il est question, il va simplement raconter ses rêves, mais le plus naïvement possible. Et ça va mal se passer. Ça va très mal se passer. Parce que tout le monde, même son père, n'était pas prêt à entendre ce que Joseph avait reçu de la part de Dieu. Ici, dans le passage que nous avons lu dans l'Ecclésiaste, j'en viens parce que comme Joseph a reçu des rêves, je fais une petite parenthèse sur les rêves. Parce que aujourd'hui, en se basant sur ce texte de Joël, où il est dit que les jeunes gens et les vieillards auront des songes et des visions, on utilise ce verset à tort et à travers pour faire parler Dieu à travers nos rêves. Je ne dis pas que Dieu ne parle pas par rapport à nos rêves. Je ne dis pas que c'est impossible. Seulement, il nous faut bien comprendre et réaliser que ce n'est pas le moyen que Dieu préfère pour nous parler. Et ça, c'est très clair dans la parole. Le Seigneur, il aime nous parler avant tout par sa parole. Et les rêves, même si ça peut arriver, qu'on puisse avoir un rêve que Dieu permette, c'est certainement pas le moyen que Dieu utilisera en priorité pour s'adresser à nous. Et quand il y a un rêve, c'est certainement qu'il y a quelque chose de très important lié à ses rêves. On a l'exemple de l'apôtre Paul qui va rêver d'un Macédonien qui vient vers lui. Et ça lui donne une direction très précise sur où est-ce qu'il faut aller. Parce que il comptait se rendre dans une autre direction. Et que si Dieu n'avait pas employé ce moyen, peut-être qu'il n'aurait pas été attentif. Alors il fallait qu'il soit attentif. Donc Dieu a parlé, entre guillemets, plus fort. Mais d'une manière naturelle, c'est pas la manière par laquelle Dieu préfère s'adresser à nous. Il préfère d'autant plus la proximité avec nous et ce chuchotement à l'oreille. Cette parole qui ressort au fin fond de notre cœur quand on lit sa parole. Quand on a ce cœur tourné vers lui. Alors, il y a cette proximité. Il n'a pas besoin d'utiliser des rêves pour nous parler. Ici, si on regarde ce qui est simplement décrit dans ce que nous avons lu dans l'Ecclésiaste, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a quand même un petit parallèle quand il est question des rêves. Le verset 2, il est dit, en effet, le rêve vient de la foule des soucis, donc on a la source, la foule des soucis, et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Il y a une comparaison entre le grand nombre de paroles et les soucis qui produisent un rêve et qui produisent le non-sens. C'est le cas le plus général des rêves. J'ai envie de dire, faut pas rêver. C'est le cas le plus général des rêves. Les rêves viennent de quelque chose de naturel, que sont les soucis de notre vie, ce qu'on a vécu dans notre journée, et il se peut que dans la nuit on fasse un rêve, mais ça reste un rêve. Et il ne faut peut-être pas accorder trop d'importance aux rêves que l'on peut faire. Je pense que si j'aborde ce sujet, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Ensuite, on voit qu'il y a une insistance sur le fait de rapprocher les rêves de ces choix insensés derrière. Au verset 6, il y a la même insistance. Car dans la foule des rêves, il y a des vanités d'eux-mêmes quand il y a beaucoup de paroles. Et toujours dans la notion du parler trop. Il y a beaucoup trop de paroles et finalement il en ressort rien. Parce que je parle trop et je dis des choses à tort et à travers et je fais plus de mal que de bien par la quantité de mes paroles. Quand je commence à mettre en lumière tous les rêves que je fais chaque jour et que j'essaye d'y trouver des enseignements de Dieu, attention, c'est grave. Attention. On peut lire juste à ce sujet deux versets qui parlent des rêves. Ésaïe chapitre 29, verset 8. Je crois que je l'ai cité dimanche d'ailleurs. Ésaïe 29, verset 8. Alors, comme celui qui a faim rêve qu'il mange. Puis s'éveille, le gosier vide. Et comme celui qui a soif rêve qu'il boit. Puis s'éveille, épuisé, et le gosier assoiffé. Ainsi en sera-t-il de la multitude de toutes les nations qui combattront la montagne de Sion. Là, ce verset nous évoque tout simplement le naturel du rêve. Il y a un besoin qui est là, alors on en rêve. Et c'est pas pour autant qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer. On a un besoin, donc on a eu un rêve associé au besoin qu'on a. Et puis ça s'arrête là. Un deuxième texte, psaume 73. Et là, il est question d'une attitude. Il y a une comparaison. Psaume 73, versets 19 et 20. Le psalmiste parle des méchants, de ceux qui ne se soucient pas de Dieu. Et voilà ce qui est dit à leur sujet. Comment, en un instant, les voilà en pleine désolation. Ils sont à bout, achevés par l'épouvante, comme un songe au réveil. Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Je relis le verset 20. Comme un songe au réveil, Seigneur, à ton éveil, tu repousses leur image. Quelque part, de quelque chose, le Seigneur, il y a ici cette comparaison avec le fait, on sait que quelque chose n'est pas bon, alors il nous faut les repousser. Le Seigneur saura nous montrer que ça vient vraiment de lui. Et si un rêve que j'ai fait correspond à ce que Dieu m'a dit, Dieu saura me confirmer ce que j'ai reçu la nuit par autre chose. Mais en attendant, il est prudent, à mon sens, de ne pas mettre trop d'importance à ces choses-là, qui sont des choses naturelles. Sachons même s'il faut les repousser. Le Seigneur, si c'est de lui, il saura nous le rappeler, il n'y a pas de souci. Hein. Mais nous, notre réflexe serait peut-être plutôt de ne pas y faire attention. Ici, si un songe doit venir de Dieu, il y a deux, trois règles qu'on peut quand même appliquer. C'est que le rêve doit toujours respecter l'auteur du rêve. Si un rêve vient de Dieu, on comprend bien que dans le rêve lui-même, Dieu ne va pas être sali. Une deuxième chose, c'est qu'il ne pourra pas rentrer en contradiction avec la parole. C'est une deuxième chose qui doit nous permettre aussi peut-être de savoir. Et une troisième chose, c'est qu'un rêve ne va pas être immoral. Parce que Dieu, il ne tolère pas l'immoralité. Trois petites pistes qui peuvent déjà nous aider à faire pas mal le tri. Mais j'en reviens quand même à ces choses. Dieu n'utilise pas en principal le rêve pour nous parler. Et à tous ceux qui peut-être l'utilisent à tort et à travers, on a justement ce texte dans Jérémie au chapitre 23, verset 28. Où finalement, on doit se recentrer sur l'essentiel. Que le prophète qui a un songe raconte ce songe, et que celui qui a ma parole rapporte fidèlement ma parole. Qu'a de commun la paille avec le froment ? Quand bien même le rêve viendrait de Dieu, et qu'il est la paille qui permet d'obtenir derrière du froment, l'important n'est pas la paille qui a fait monter le froment. L'important, c'est le froment lui-même. Donc, quel que soit le moyen que Dieu utilise pour me parler, ce qui est important, ce n'est pas le moyen qu'il a utilisé, c'est le message qu'il m'a donné. Et c'est là qu'il faut bien comprendre cette parole. Qu'a de commun la paille avec le froment ? Si Dieu m'a parlé de telle ou telle manière, quelque part, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est le message que Dieu voulait me donner et ce que je dois garder. Et s'il le faut, ce que je dois transmettre. Mais attention, je voudrais citer ce proverbe, ne cherchez pas. Proverbe 12:23, l'homme prudent cache sa connaissance, mais le cœur des insensés proclame la folie. Et pour reprendre l'exemple de Joseph, il avait reçu une parole de Dieu, une vraie parole de Dieu, mais au lieu de la garder pour lui, il l'a déblatérée sur la place publique et ça s'est très très mal passé. Si jamais Dieu nous parle et qu'il s'agit de quelque chose d'important au point qu'il utilise un rêve, ayons la prudence de le garder pour nous. Si vraiment c'est nécessaire de le partager, ce qui est important, c'est pas le fait que vous en ayez rêvé. Ce qui est important, c'est le message. Et ce que Dieu veut que vous transmettiez comme message. Et ici, derrière, si on lit la suite de ce qu'il y a dans Jérémie, au chapitre 23, justement, où Dieu, il accuse tous ceux qui, justement, font dire à Dieu des choses qu'il n'a pas dites. Au verset 32, « Je suis oracle de l'Éternel, contre ceux qui prophétisent des songes faux, qui les racontent et qui égarent mon peuple par leur fausseté et leur témérité. » et moi, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Et ils n'ont aucune, ils ne sont d'aucune utilité à ce peuple. Attention à ce que je pense avoir reçu et que je dis, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que. Est-ce que c'est réellement vrai? Est-ce que c'est vraiment vrai? Le texte de l'Ecclésiaste que nous avons lu aboutit sur un conseil par rapport à nos paroles, qui est celui de craindre Dieu. Quand je crains Dieu, finalement, je suis tellement en souci de ne pas mal parler et de pas mal le représenter surtout, que je vais forcément exercer la prudence quant à ce que je peux dire, surtout quant à ce que je peux dire de sa part, soi-disant de sa part. Le Seigneur nous appelle à le craindre. Et heureusement pour Joseph, il avait cette crainte de Dieu. C'est pour ça que je dis que Joseph, il était vraiment dans la naïveté, parce qu'il craignait Dieu de tout son cœur. Dieu avait fait alliance avec lui, et la suite de son histoire nous montre bien à quel point l'Éternel était avec lui. Donc, Joseph n'avait pas péché. Mais en ce qui nous concerne, si je crains Dieu, si nous craignons Dieu, par rapport à des choses que Dieu peut nous dire, eh bien, on aura le souci dans notre cœur de ne pas être désagréable à Dieu par nos paroles et de veiller à ce qu'on dit, de veiller aux conseils qu'on peut donner à une personne ou à un autre. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous, c'est par rapport à nos engagements personnels. Proverbes chapitre 20, versets 24 et 25, je vous le cite. « C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. » Le vœu, c'est l'exemple typique des paroles qui vont nous lier. Le problème, c'est que bien souvent, on ne se rend pas compte des paroles que nous prononçons nous-mêmes et à quel point, sans nous en rendre compte, nous nous lions par elles. Et l'exemple qu'on peut prendre, c'est un très bon exemple, c'est celui de Pierre, justement. Et on pourrait juste lire quelques exemples. Luc chapitre 22, verset 30. Luc 22, verset 30. Le vœu, il faut le comprendre comme un engagement. Et les paroles que Pierre prononce ici, elles sont très engageantes. Luc 22, verset 30 à 33. C'est 31, pardon. Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas et toi, quand tu seras revenu à moi, affermis tes frères. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. Ça, si c'est pas un vœu, je sais pas ce que c'est. C'est un engagement profond de Pierre vis-à-vis de son maître. Et il s'engage publiquement, devant tous, à être même meilleur que les autres, et à tout faire, même s'il faut jusqu'à mourir pour lui. On peut imaginer la scène, ça devait être... Il a dû le dire d'une belle manière, ça devait être beau à entendre, mais le Seigneur, lui, savait que cette parole, il n'allait pas pouvoir la tenir. Pourtant, on voit ici une chose surprenante, c'est que Pierre avait reçu aussi une parole de Dieu. Je reviens à cette petite introduction sur le livre de l'Ecclésiaste. Quand tu t'approches de la maison de Dieu, écoute. Parce que si Pierre avait vraiment écouté la parole de Jésus à ce moment précis, eh bien, il ne se serait pas lié par des paroles. Et on voit que toute la chute de Pierre va être une conséquence du fait qu'il se soit lié par ses paroles. Qu'est-ce qui se passe? Pierre s'est lié par ses paroles et il a promis solennellement devant tous ses collègues que s'il le fallait, il donnerait sa vie pour lui. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on le dit pour dire des fois que si on lit la suite au verset 54, après s'être emparé de Jésus, ils l'emmenèrent et le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. souvent on cite cette dernière phrase en parlant de l'éloignement, et c'est vrai, hein, c'est une bonne explication par rapport au fait que spirituellement on doit être proche du Seigneur. Mais là, ce que j'aimerais juste mettre en lumière, une facette un peu différente de ce passage, qui est que si on pense aux autres disciples, eux, ils n'avaient pas péché, ils n'avaient pas renié Jésus, mais on ne les voit pas là dans la scène. Par contre, Pierre, lié par ses paroles, il s'était engagé à suivre Jésus. Il a essayé. Il a essayé de le suivre, mais il ne pouvait pas. Jésus était sur un autre braquet, comme on peut dire. Pierre, il ne pouvait pas. Il ne pouvait que suivre de loin. Et il ne voulait que compter sur ses propres forces. Et est arrivé ce qui devait arriver, c'est qu'il n'avait pas la force de tenir son engagement. Et il est allé parce qu'il était lié par ses paroles. Il s'était engagé, alors il l'a suivi de loin. Il fallait qu'il fasse bonne figure. Et on voit qu'il est, entre guillemets, qu'il voulait bien commencer, parce que il a emporté l'oreille de ce soldat, comme on l'a lu en introduction. Il était fermement décidé. Mais il n'a pas pu tenir. Il n'a pas pu tenir parce qu'il comptait sur ses propres efforts pour honorer sa parole. Mais Dieu ne lui avait jamais demandé de s'engager comme ça. Il ne lui avait jamais demandé. D'ailleurs, aucun reproche n'est fait à ceux qui sont partis. Aucun reproche. Quand ils sont rassemblés, ils n'avaient pas à demander pardon, rien du tout. Et peut-être que Pierre aurait simplement pu faire comme les autres. Et s'il ne pouvait pas supporter de voir son maître souffrir, eh bien, c'est pas grave. Mais il s'est engagé, il s'est lié par ses paroles, et il n'a pas pu. Un disciple a réussi, c'est Jean. Et lui, il n'a pas parlé par contre. Et lui, il n'a pas parlé. Mais dans son cœur, il avait peut-être pris la même résolution que Pierre. Peut-être que dans son cœur, il avait dit, mais moi aussi, s'il faut, j'irai jusqu'à la mort. Sauf que lui, il n'était pas lié par ses paroles. Mais lui, dans son cœur, on voit que jusqu'à la fin, jusque sur la croix, Jésus parle aux disciples qu'il aimait. Et Jean, jusqu'au bout, lui, il va pouvoir. Mais Jean n'était pas lié par ses paroles. Et ce qu'il a fait sortait de son cœur, tout simplement. Il le faisait naturellement. Mais Pierre, lui, s'est engagé sur une voie légèrement différente. Parce qu'il s'est engagé dans des choses qu'il ne pouvait pas réaliser. Et c'est ici, finalement, ce qui a fait qu'il est tombé. Il a parlé à tort et à travers. Et l'apôtre Pierre, il était capable de dire des choses super, et deux minutes après, de dire l'inverse. C'est un passage qu'on connaît tous très bien. Et l'apôtre Pierre était ainsi ce fougueux, mais il le faisait de tout son cœur. Mais il n'arrivait pas à contrôler ce qu'il disait. Il n'avait aucun discernement. Et tout ce qui lui passait dans le cœur, dans l'esprit, eh bien ça sortait. Et ça faisait du mal. Il blessait plus qu'il ne guérissait. Or, que voyons-nous dans le livre des Actes ? On voit un apôtre Pierre qui guérit. On voit un apôtre Pierre qui, là, va parler, et même longuement, et des âmes, en grand nombre, vont obtenir la vie éternelle. Entre-temps, il y a quelque chose qui s'est passé chez Pierre. Et l'apôtre Pierre, suite à son reniement, il va pleurer amèrement. Il va croiser le regard du Seigneur, et il va comprendre qu'il n'était pas capable. Il va comprendre que c'est pas sur ses propres forces qu'il fallait qu'il compte, mais que c'était sur le Seigneur. Peut-être que cette parole de Jésus lui reviendra à l'esprit. « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Peut-être qu'il va se rappeler cette parole. Mais néanmoins, on va voir qu'au livre des Actes, il va s'en tenir. Il va se tenir à carreau du point de vue de ses paroles. Il va faire attention. C'est un autre homme qu'on voit dans le livre des Actes, parce que c'est quelqu'un qui a été visité par le Seigneur. Et on voit qu'il va développer, les fruits de finalement la communion qu'on peut avoir avec Dieu, qui va nous amener à de la prudence dans nos paroles. Un vrai chrétien qui s'est engagé et qui s'est engagé à vouloir faire du Seigneur son Seigneur personnel, son maître, eh bien, il va aussi faire des progrès dans ce domaine. Parce que le vrai chrétien, c'est celui qui est amené à faire attention à ce qu'il dit. La maîtrise de soi fait partie des fruits de l'esprit. Galates 5, 22, si vous regardez la liste, c'est écrit. Donc, je dois être maître de ce que je dis. Je ne peux pas dire que j'aime Dieu, que je me suis consacré, et sans cesse être dans la médisance, s'il faut même dans la calomnie, sans cesse dire Dieu m'a parlé, Dieu m'a montré que, et faire des dégâts plus qu'il n'en faut. On est comme des apôtres Pierre dans ce cas-là, qui dégainent à tout va et qui font bien plus de blessés que de guérison. Le Seigneur nous appelle à faire attention. Pour conclure ce message, j'aimerais qu'on lise ensemble ce proverbe. C'est le proverbe au chapitre 10, versets 18 et 19. Et là encore, c'est un conseil, c'est du bon sens, on pourrait dire. Mais si le Seigneur a jugé bon que cette parole soit écrite, c'est bien que notre cœur est ce qu'il est, et il nous faut faire doublement attention. Proverbe, chapitre 10, versets 18 et 19. Celui qui dissimule la haine a des lèvres fausses, et celui qui répand la calomnie est un insensé. Avec beaucoup de paroles, on ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme de bon sens. Dans la version 8 secondes, peut-être que vous avez, celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. Mais celui qui retient ses lèvres est un homme prudent. Que vous ayez reçu des paroles du Seigneur au fond de votre cœur, Dieu vous appelle à de la prudence. Dieu nous appelle. Je m'inclus. Il n'y a pas de raison que je sois exclu. Dieu nous appelle à être prudent par nos paroles. Parce qu'avec nos paroles, on peut faire du mal. Et on peut se faire du mal. L'apôtre Pierre est un bon exemple. Il s'est fait du mal lui-même, avec son épée qu'il ne maîtrisait pas. Si je reçois des paroles de Dieu, je suis prudent. Et dans la vie de tous les jours, Seigneur, aide-moi à être prudent dans mes paroles. Aide-moi à ne pas parler trop, à faire attention. Et si jamais j'ai fait du mal, si jamais j'ai blessé quelqu'un, eh bien, je peux me repentir et le Seigneur nous appelle à demander pardon. Mais si j'ai mal parlé à quelqu'un, je crois, c'est même sûr, qu'il faut aller demander pardon à la personne avant de demander pardon à Dieu. Par nos paroles, on peut faire beaucoup, beaucoup de mal. Que le Seigneur nous aide à réaliser à quel point notre langue peut être dangereuse. À quel point aussi notre langue, quand elle est bien utilisée, peut donner la vie. Comme l'image de ce verset qui dit qu'elle donne une guérison. On peut guérir aussi par nos paroles. On peut, au contact d'un frère, d'une sœur, apporter une parole qui vient de Dieu. Et là, une parole qui vient de Dieu, c'est une parole qui donne la vie. C'est une parole qui va encourager. C'est une parole qui va permettre à la personne peut-être même de se relever, de se convertir pour certains. Si seulement nos paroles sont bien maîtrisées et qu'on a ce souci de craindre le Seigneur, qu'on a ce souci de toujours lui être agréable. On demande au Seigneur son aide. Oui Seigneur, tu as invité Pierre à remettre son épée au fourreau. Et je prie aussi pour moi-même. Nous avons besoin de ton aide, Seigneur. Parce que ce qu'il y a tout au fond de notre cœur a peut-être tendance à sortir trop vite. Seigneur, je veux te prier, Seigneur, pour que tu nous aides tous à veiller à ces bons conseils que tu nous laisses dans ta parole. Oui, Seigneur, tu nous appelles à la prudence. Parce que tu nous aimes trop. Tu ne veux pas que nous nous fassions du mal comme nous nous fassions du mal à ceux qui nous entourent. Et Seigneur, c'est tout humblement que nous nous plaçons devant toi et que nous te demandons ta grâce, que tu puisses nous aider à faire attention à ce qu'on dit. Seigneur, si quelqu'un a l'explication de ce message, a réalisé dans son cœur qu'il a fait mal à quelqu'un, je te prie pour lui, pour elle, pour que tu puisses, par ton esprit, Seigneur, le pousser à aller demander pardon à la personne à qui il a mal parlé. Seigneur, étends ta main et fais grâce, Seigneur Jésus. Nous te demandons ta grâce, tout simplement, nous nous plaçons devant toi et nous te demandons ton aide. Non, nous ne voulons pas compter sur nos propres forces, mais c'est sur toi que nous voulons compter. C'est toi qui fais le travail dans notre cœur. C'est toi qui nous permets, Seigneur, sans même que nous nous en rendions compte, que nous fassions des progrès alors que nos yeux sont fixés sur toi. Merci, Seigneur, pour ta grâce, pour tes bienfaits. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Amen.